Vous êtes avec SBS French. Les grands titres de ce dimanche, le verrouillage de Melbourne se terminera 5 jours plus tôt que prévu avec une série de changements dans la feuille de route de réouverture du Victoria. Le dirigeant de la Nouvelle-Galles du Sud revient sur la décision de la suppression de la quarantaine pour les arrivées internationales à la demande du Premier ministre Scott Morrison. Le lockdown de 10 semaines de Melbourne se terminera jeudi prochain à 23h59 lorsque le Victoria devrait atteindre son objectif de vaccination à double dose de 70%. L'État a enregistré 1838 nouveaux cas locaux de COVID-19 et 7 décès ce dimanche, avec 65% des personnes âgées de 16 ans et plus désormais entièrement vaccinées. Le gouvernement de l'État a également apporté quelques modifications à la feuille de route de réouverture de l'État, notamment en supprimant la limite de voyage pour Melbourne seulement et en autorisant jusqu'à 10 visiteurs par jour à la maison. Et le chef du Victoria, Daniel Andrews, a annoncé un retour à l'école pour tous les élèves une semaine plus tôt que prévu, soit le 22 octobre prochain.
I can't tell you how proud I am of our state, the resilience, the courage, the compassion and the conviction that Victorians have shown to get this job done is quite amazing. Not only am I proud, but I'm deeply grateful. But I would just say this, there's still a little way to go. We've got to get that 70 number to 80.
Le couvre-feu controversé dans le Victoria sera également supprimé et les rassemblements en plein air jusqu'à 15 personnes seront autorisés avec un nouvel assouplissement dans les régions rurales du Victoria. Le gouvernement a déclaré que bien que l'État ait plus de cas qu'il ne le souhaiterait, le taux d'hospitalisation et la gravité de la maladie sont inférieurs à ce que l'on craignait. Le directeur de la santé du Victoria, Brett Sutton, a déclaré que le taux d'augmentation de vaccination a été aussi rapide que dans n'importe quel autre endroit du monde.
It's really been an extraordinary story. We've had huge uptick in our vaccination. We've gone from 0 to 35% coverage in over 150 days, and the 35% to the 70% mark is going to happen in much, much less than that. It's really extraordinary how we're shooting up the global rankings in terms of our vaccination coverage.
Et le port du masque reste obligatoire dans le Victoria. Le dirigeant de la Nouvelle-Galles du Sud, Dominique Perrottet, est revenu sur sa décision de mettre fin à la quarantaine dans des hôtels pour les arrivées internationales entièrement vaccinées et d'accueillir toutes les arrivées de l'étranger. Le Premier ministre, Scott Morrison, a renversé ses décisions et a déclaré que le gouvernement fédéral s'en tiendrait à son projet d'ouvrir d'abord la frontière aux citoyens et aux résidents permanents du pays. Interrogé sur ses conversations avec le Premier ministre, Dominique Perrottet a déclaré que tout avait été constructif avec le gouvernement fédéral.
I've had numerous conversations with the Prime Minister, numerous conversations in relation to moving to this point, and the federal government is supportive. Now, obviously, it's a matter for them in terms of how they stage it, but we certainly want to move it, and we want to move fast, because if we can open up safely in this way, we'll get the New South Wales economy back on top. And why is that important? Because it provides opportunity and prosperity for everyone across New South Wales.
Il y a eu 301 cas de COVID-19 en Nouvelle-Galles du Sud ce dimanche, un jour après avoir atteint l'objectif de vaccination à double dose de 80%. Cela signifie que le gouvernement de l'État assouplit davantage les restrictions de COVID. À partir de demain, lundi, 20 visiteurs seront autorisés à l'intérieur d'une maison et jusqu'à 50 personnes pourront se rassembler à l'extérieur à partir de demain. Les masques ne devront plus non plus être portés dans les bureaux. Les sports communautaires pourront reprendre et les discothèques pourront rouvrir. Le ministre fédéral des Finances, Simon Birmingham, a nié que le Parti national est en train de dicter la politique climatique du pays. Les députés nationaux se réunissent aujourd'hui pour discuter du plan du Premier ministre Scott Morrison de s'engager à zéro émission nette d'ici 2050 avant le sommet crucial des Nations Unies sur le climat à Glasgow. Certains membres du Parti national n'ont pas encore accepté un engagement net zéro. Le libéral Simon Birmingham a déclaré sur Sky News que le gouvernement travaillait sur des préoccupations légitimes pour formuler sa politique climatique.
The government is deciding the government's climate change policy. The government comprises all of our members, Liberal members, National Party members, LNP, CLP, etc. So we bring together people right across the country to be able to effectively consider all of the implications and issues. There's no point pretending that there aren't some parts of the Australian community who are concerned about the implications of these decisions.
La sénatrice du Parti travailliste, Katie Gallagher, a déclaré sur l'ABC que le Premier ministre devrait commencer à s'imposer, à imposer son leadership sur la question du climat.
This past week has sort of been just like such an eye-opener. We've had the Prime Minister, you know, after doing nothing for 8 years, now trying to wrangle the National Party into telling him what he's allowed to say when he goes to Glasgow. That's the state of where we're at the moment. And we need the Prime Minister to take charge and make sure that when he goes to Glasgow, he's actually representing Australia in a very positive way about the action that needs to happen on climate change.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson et le leader travailliste Keir Starmer ont visité l'église où un député britannique a été mortellement poignardé. Les deux hommes ont déposé des fleurs à l'extérieur de l'église méthodiste de Belfairs, puis sont restés un moment dans le silence avant de repartir. Le politicien conservateur David Amos a été poignardé à mort lors d'une réunion avec des électeurs à Leighton-on-Sea, à l'est de Londres, dans ce que la police a décrit comme une attaque terroriste avec des liens avec l'extrémisme islamique. Les dirigeants musulmans locaux ont également condamné le meurtre. Le ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, a déclaré que de plus grandes mesures de sécurité et de protection pour les députés étaient envisagées.
Now, clearly there is a live police investigation taking place right now. There are obviously discussions around MP security too. And when we think of David, David himself, man of the people, he was killed doing a job that he loved, serving his own constituents as an elected democratic member. And of course, acts of this are absolutely wrong, and we cannot let that get in the way of our functioning democracy.
Dans moins de deux mois, le 12 décembre, un troisième référendum en Nouvelle-Calédonie sur l'avenir du pays. Les indépendantistes veulent un report du vote à cause de la crise Covid, mais les loyalistes veulent maintenir la date du 12 décembre. Précision de Julien Chavannes pour RFI.
Le taux d'incidence du Covid sera le juge de paix. Aujourd'hui, il frôle les 300 cas pour 100 000 habitants. La limite de 100 cas serait l'objectif pour la tenue du scrutin. Mais pour le camp du oui à l'indépendance, la campagne est déjà mort-née. Daniel Goa est le président de l'Union calédonienne, la principale force indépendantiste.
Ben aujourd'hui, avec les choses qui nous sont tombées dessus, eh bien, nous demandons à ce que ça soit reporté, comme on avait demandé au départ, en 2022.
Autrement dit, un référendum après la présidentielle. Une mauvaise idée pour le député Philippe Gomez, partisan de la Nouvelle-Calédonie française.
La Nouvelle-Calédonie, enjeu de politique intérieure, de manière générale, ça se termine mal. Et puis la deuxième chose, c'est qu'une année de plus, c'est une année de tensions locales supplémentaires, d'atonie économique. Donc non, si l'épidémie est contrôlée, il faut qu'on tienne le référendum à la date qui est prévue.
Entre la menace d'un boycott brandi par les indépendantistes et la pression des loyalistes pour tourner la page du référendum au plus vite, Sébastien Lecornu joue la prudence. Le ministre des Outre-mer ne s'est donné aucune date limite pour fixer le sort du scrutin, à la recherche, selon son entourage, d'un trou de souris pour maintenir le 12 décembre.
Et puis la Nouvelle-Calédonie se reconfine pour quelques jours à cause du Covid. Les précisions de Serge Massot pour RFI.
La Nouvelle-Calédonie se reconfine pour le week-end. Le Caillou a enregistré 5 nouveaux décès liés au Covid-19. Écoutez l'intervention du président du gouvernement calédonien, Louis Mapou.
Pour le week-end à venir, le confinement strict avec attestation d'un déplacement est rétabli jusqu'au lundi matin à 5h10. Afin d'éviter tout débordement et de limiter les accidents, nous avons demandé au haut commissaire d'interdire la vente d'alcool dès aujourd'hui à 17h et pour toute la durée du week-end, hormis dans les commerces spécialisés. Nous ne voulons pas, par des excès dans les comportements, courir des risques d'une saturation beaucoup plus importante du service de réanimation de l'hôpital. Les mesures applicables depuis le 11 octobre sont donc maintenues en semaine. L'attestation de circulation n'est pas nécessaire en semaine. Le couvre-feu est maintenu tous les jours, à partir de 22h jusqu'à 5h.
Et puis autre annonce, après le milieu médical, ce sont les enseignants et le personnel des établissements scolaires de Nouvelle-Calédonie qui ont l'obligation de se faire vacciner avant la fin du mois.
Des hommages en France ce week-end, hommage notamment aux victimes de la répression sanglante du 17 octobre 1961 par des manifestants algériens. Pour la première fois, un président a rendu hommage à Colombes en région parisienne. Précision de Julien Chavannes pour RFI.
Emmanuel Macron voulait faire un pas de plus dans le devoir de mémoire, mais pour les associations et les historiens, le président français n'est pas allé assez loin. Les descendants de victimes demandaient la reconnaissance d'un crime d'État. Si Emmanuel Macron a bien reconnu que des crimes avaient été commis le 17 octobre 1961, il ne pointe qu'un seul responsable, Maurice Papon, le préfet de police de Paris. Un déni pour les associations qui dénonçaient le rôle du gouvernement à l'époque et du président de Gaulle. Pourquoi cette prudence de la part du chef de l'État ? L'histoire de la guerre d'Algérie a toujours été sensible en France, terrain inflammable en période de campagne présidentielle, sans compter le climat actuel de tension avec Alger. Le président français n'a d'ailleurs pas voulu en faire trop sur la forme de cette annonce. Une cérémonie sobre et un communiqué moins médiatique qu'un discours. Une politique des petits pas assumée par Emmanuel Macron. Le chef de l'État a choisi le ton long et la méthode douce pour réconcilier toutes les mémoires.
Page culture avec le cinéma et ce coup de projecteur sur Julie en 12 chapitres. C'est un film norvégien, comme nous l'explique Sophie Torlotin pour RFI.
Julie est une jeune femme bien de son temps. Au passage de la trentaine, cette brunette pétillante cherche encore sa voie professionnelle. Et son cœur balance entre son premier grand amour, un auteur de bande dessinée plus âgé qu'elle, et un barman jeune et séduisant. Le chef de file du cinéma norvégien, Joachim Trier, 47 ans, réussit un film à la fois mélancolique et très joyeux, sur une jeune femme forte et vulnérable à la fois. Le spectateur sera charmé par plusieurs séquences étonnantes. L'une réussit à rendre palpable l'envie qu'a Julie d'arrêter le temps après un coup de foudre.
Je voulais vraiment faire un film organique. Je voulais qu'on sente la vie. Effectivement, il y a cette scène où Julie rêve qu'elle peut arrêter le temps et s'enfuir avec Evin, qu'elle vient de rencontrer une soirée. Elle court dans les rues alors que la vie s'arrête. Et on a juste demandé aux figurants de ne pas bouger. On l'a tourné pendant le Covid. C'était dur, mais c'était très joyeux. Comme une fête de quartier, et j'ai adoré ça.
Portrait d'une trentenaire en pleine crise existentielle, Julie, en 12 chapitres, aborde les questions de différences générationnelles, de désir et de fidélité, et il révèle une comédienne formidable, Renate Reinsve, à qui le jury du Festival de Cannes a décerné le prix de la meilleure actrice.
On passe à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 21 degrés. Adélaïde, 23. Melbourne, 19. Hobart, 17. Canberra, 19. Sydney, 22. Brisbane, 28. Cairns, 33. Darwin, 34. Et à Alice Springs, maximal de 35 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche 17 octobre. Le verrouillage de Melbourne se terminera 5 jours plus tôt avec une série de changements dans la feuille de route de réouverture du Victoria. Le dirigeant de la Nouvelle-Galles du Sud revient sur la décision de la suppression de la quarantaine pour les arrivées internationales à la demande du Premier ministre Scott Morrison. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.